foncer. Du genre je te mords si tu marches sur mes pieds. Je voulais juste être respecté. Il semblait pas être d'accord. J'ai toujours pas quel fut mon tort. Non c'est quoi la bébé, c'est la mode. Me suis...
Bonsoir à toutes. Et non, aujourd'hui, vous n'écoutez pas Brazero, mais Brazera.
Eh, hey, mais c'est quoi Brazera?
Brazera, c'est la version non mixte de Brazero. Tout a commencé lors d'un week-end organisé à La Chapelle en mai 2017. L'idée du week-end, c'était de se rencontrer entre féministes, meufs, women, trans, PD, putes, pour partager, discuter, questionner entre collectifs et individus nos féminismes et nos luttes.
Du coup, cet hiver, c'est Brazero.
Non, c'est Brazera.
Sur les ondes de Canal Sud, avec des sons du week-end enregistrés dans une caravane transformée à l'occasion en radiomaton.
Bonsoir. On est contente de vous retrouver en 2018 pour la deuxième émission de Brazera. Ouais.
Bonne année.
Alors, ce soir, on va écouter des entretiens des meufs habitantes du CSA et de Chakiral, une chorale non mixte.
C'est quoi que t'entends par non mixité?
Ben, non mixité, ou mixité choisie, c'est le fait de se retrouver entre personnes qui vivent une oppression commune pour partager du vécu, s'organiser entre elles et eux et trouver des stratégies communes. En l'occurrence, le week-end space féministe était non mixte, meuf, trans, pédéguine. Sans mec cis, quoi.
Mais c'est quoi mec cis?
Cis, c'est cisgenre, c'est-à-dire quelqu'un qui s'identifie au genre qui lui a été attribué à la naissance. On va aussi parler de moments relous d'interaction et de récits et témoignages de lutte racontés par des meufs. Pardon. Par des meufs. Enregistrés lors du Radiomaton. Bonne écoute!
Radiomaton. Radiomaton. Radiomaton.
Bienvenue, ceci est un radiomaton.
Rentre dans la caravane, seul ou à plusieurs.
Tu peux t'installer à la table.
Autour de toi, tu verras des questions et vois si ça te fait kiffer d'y répondre.
Si oui, tu appuies sur le bouton et voilà, tu racontes ce que tu veux.
Chacune à son tour, tout en même temps, c'est free.
Quand c'est fini, tu appuies sur le bouton rouge.
Témoignages, anecdotes, coup de gueule, chansons, histoires en tout genre.
L'idée, c'est de se raconter nos luttes ordinaires ou extraordinaires. Le tout pour une émission diffusée sur Canal Sud. Choisis ton cadre.
La non-mixité ou la mixité, tu la racontes comment?
Raconte une prise de conscience sur le sexisme, féminisme, racisme, sur les questions de classe, de sexualité, de genre et tout autre rapport de domination.
Raconte un truc qui t'a saoulé, touché, posé question, donné de la force. Radiomaton.
Radiomaton. Radio.
Radiomaton.
Sans maton.
Parlez, vous êtes enregistré.
Brazé radio féministe.
Brazé radio féministe.
Brazé radio féministe.
Il y a des moments où ils comprennent pas. Ça sert à quoi de te revendiquer féministe, de faire des trucs en non-mixité, de... J'ai pas à me
justifier de mes pratiques, j'ai pas à expliquer pourquoi je sors avec des meufs, j'ai pas...
Ce qui me fatigue en fait dans la vie de tous les jours quand t'expliques ce qu'est le combat féministe.
Assumer le terme féministe, j'ai eu d'autant plus besoin de le revendiquer.
Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot.
Avec Lisa, on traîne dans un internat où il n'y avait pas de mixité en fait. Parce que la mixité, normalement, c'est quand t'as 30% de la plus petite part qui est au moins représentée. Là, les filles, c'était 6% de l'effectif des élèves. Donc y avait même pas, on ne pouvait même pas faire une mixité en fait.
Et en fait, elle se faisait huer à chaque fois qu'elle montait. L'internat des filles était tout en haut et donc elle devait traverser tous les étages où il y avait les internats de garçons. Et donc tout le long où elle montait, elle se faisait huer, des remarques sexistes,
tout le temps. Et en fait,
c'était
par le personnel.
Elle en plus.
Ouais, puis ce qui était terrible, c'est que nous, ça nous choquait, tu vois, dans un endroit, en fait, c'est l'école, quoi.
Vous taffiez là-bas, vous ?
Oui, on était pionnes là-bas.
On était pionnes là-bas. Et en fait, ce qui était terrible, c'était que le personnel expliquait, oui, mais bon, vous savez, c'est un lycée de mecs, ici on fait de la méca, c'est des routiers. Et donc, quoi, je comprends pas, en fait.
Parce qu'ils sont routiers, ils ont le droit d'être sexistes, quoi.
Voilà, c'est un peu ça. C'est, ouais, mais bon, c'est le milieu qui veut ça, tu vois, tu t'adaptes, ou voilà. Mm-hmm. C'était un peu ça. Et du coup, on s'était dit, les quelques filles qui sont dans ce lycée-là, eh ben, il faut leur donner la parole, quoi. Mm-hmm. Du coup, on avait créé le cercle de parole, et ça en était suivi des listes de témoignages à l'écrit de ce qu'elles avaient vécu ou des choses auxquelles elles avaient été témoins. Ça a ressorti énormément de choses, notamment sur les profs, le personnel de la cantine, enfin. Au début, nous, on pensait plus aux élèves, en fait, le rapport entre élèves, mais en fait, il y a plein d'autres choses qui se sont révélées, quoi. Donc, au-delà de l'oppression homme sur la femme, il y avait aussi la question de la hiérarchie, le prof contre l'élève, ça mélangeait plein de choses. Du coup, je raconte ça à mon kiné, quoi. Et il me dit, ouais, mais bon, les hommes aussi, hein, il n'y a pas que les femmes. Je dis, mais bien sûr, mais c'est pas mon propos, en fait. À quel moment j'ai mis une échelle de valeur ou de priorité dans les oppressions? Pas du tout.
Mais en fait, moi, ce discours-là aussi, je trouve que c'est de la renversionnite, tu sais.
C'est ça.
Le truc de, non, mais attends, des hommes battus, il y en a aussi, hein.
Oui,
ouais. Ok.
C'est
ça. Si tu regardes les chiffres, il n'y a pas un homme tous les trois jours qui meurt sur les coups,
non, mais du coup,
de sa femme.
Oui, alors du coup, on parle de ça. Je lui explique que, voilà, ben non, c'est pas... C'est pas la même chose, c'est pas la même question de priorité. Il me dit, ouais, moi, lui, c'est le seul homme dans le cabinet. Il bosse avec deux femmes. Il me disait, ouais, mais bon, moi, souvent, on me charrie sur le fait que j'ai un sac à dos, que je suis mal coiffée. Je dis, mais à aucun moment, ça ne renvoie à ton genre, en fait.
C'est trop dur, ça.
C'est juste
que mes lacets, ils sont bleus.
Mais c'est ça, je fais ça. Si c'est répété, ça peut être du harcèlement moral, mais ce n'est pas du harcèlement sexuel.
Oui.
On ne dit pas, ah, toi, l'homme, tu fais ça. C'est pas ça.
On n'est pas en train de lui dire qu'il travaille mal parce qu'il a des couilles et un pénis.
Ouais. Voilà, exactement, c'est exactement ça.
Ouais.
Donc du coup, voilà, il y a... Voilà, et ça, je trouve que c'est un discours qui ressort énormément.
Ce qui m'énerve, c'est juste quand il y a genre Rémi qui dit « Ah, les filles, comme ça
ah, !» oui.
Tu sais, avec ce grand sourire, en mode comme si elle te faisait une fleur de t'appeler comme ça et de donner des petits noms gentils, tu sais, genre... Mm. C'est pas parce que t'es un mec que tu dois croire que ça y est, t'as de... T'sais, ils sont toujours là à croire, genre, t'sais, ce genre de mec comme ça, ils croient que juste les filles, c'est juste genre pour sortir avec tes gens, ça ne sert à rien, c'est juste genre, ils te parlent toujours comme pour comme essayer de...
Ouais.
Ils peuvent pas te parler normalement, avoir une discussion avec elle, pour eux, t'es juste une fille, c'est juste un corps, t'sais, genre, y a rien de plus dedans, t'sais.
T'es faite pour baiser et puis...
Ou alors il parle comme une débile, putain, ça c'était Hugo, le pote Simon, à chaque fois il me parlait comme une débile en seconde, je disais mais à chaque fois, genre, je lui parlais super méchamment parce que. Puis il me disait, oh, sois plus gentil, ben écoute, t'as quand même parlé normalement, hein.
Ok, donc une autre histoire. Une fois, donc j'étais en cours et il y a notre prof qui nous dit, elle s'adresse parce qu'on était majoritairement des femmes, il n'y avait qu'un seul homme dans le groupe. Et là, d'un coup, elle dit, donc voilà, vous allez tous vous mettre. Et puis elle s'arrête, elle dit, ah mais non, en fait, maintenant, on peut dire toutes. Hein. C'est passé dans la loi, apparemment. Quand il y a plus de femmes que d'hommes dans un groupe, maintenant, on peut employer le mot toutes. Enfin, on peut le mettre au féminin. Et du coup, on était trop contentes. On était, ah, oh, trop bien, enfin. Elle était trop contente aussi. Et elle dit, bon, ben voilà, du coup, vous allez toutes vous mettre à faire l'exercice. Et donc, le seul mec qui était là, l'a très mal pris. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a dit Ah oui, déjà, il s'est mis à... Du coup, à rire bêtement, genre oui, d'accord. Genre, j'imite une femme en fait. Et donc là, la prof l'a repris et lui a dit, mais tu t'imites, enfin, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, ah, mais non, mais rien. Donc il continue dans son truc, je suis efféminée, voilà. Et donc c'est bien, elle l'a bien recadré en lui disant, mais en fait, moi j'ai jamais rencontré de femme qui parle comme ça. Et donc là, je sais pas ce que tu imites, quoi. Donc ça, c'était très bien. Et après, du coup, il nous a sorti que, enfin, à la fin de la journée, je crois, il nous a fait un feedback. Il nous a dit, ben, en fait, c'est dur parce qu'effectivement, je me sens, j'ai l'impression de pas exister là. Quand on met tout au féminin, je me sens pas inclus dans le groupe. Et on était là, ah ouais, c'est vrai. Et là, du coup, moi, je sais que ça m'a fait prendre conscience que, ben, en fait, c'est quelque chose que je vis depuis ma naissance, vu que tout est mis au masculin. Et donc, moi, je ne suis pas représentée dans ce groupe-là. Mais je ne sais pas si vous, ça vous l'a fait, mais moi, je me souviens, j'ai vraiment des souvenirs hyper clairs de petite à l'école, de vraiment le vivre comme une injustice quand ils nous apprenaient le français et qu'ils nous disaient, donc voilà, le masculin l'emporte sur le féminin.
C'est ça, c'est l'emporte. Ouais.
C'est l'emporte, ça, les termes employés. Et je sais que moi, ça me mettait en colère, quoi, vraiment. Et mais voilà, c'est la règle, c'est comme ça, oh, ça va, on va pas se formaliser sur ça, c'est que la langue, ben ouais, mais la langue, en fait, c'est ce qui se construit aussi, quoi.
C'est la culture qui construit la langue, la langue, c'est le reflet de la société, donc une règle de grammaire.
Ouais.
Et pas misogyne, mais.
Et en fait, ça n'a pas toujours été comme ça aussi. Mmh. Elle nous disait là, ma prof, que je sais plus, au Moyen-Âge, il y avait tout qui était efféminin et masculin. Enfin, déjà, tous les métiers avaient leur féminin, alors qu'aujourd'hui, on est en train de réinventer du féminin pour des métiers parce que commence à y avoir des meufs dedans. Et que il y avait un truc. Enfin, le féminin était beaucoup plus représenté dans la langue, quoi.
Ah ouais.
Ouais. Enfin, c'est politique, vraiment, quoi.
Je me rappelle d'un moment où un pote, genre un moment, je sais pas, je crois que je me maquillais plus, j'ai un moment, genre, je faisais plus trop d'efforts vestimentaires, enfin d'efforts, voilà, je me battais un peu plus les reins, quoi. Et un jour, je suis arrivée à une soirée, je me suis trop pimpée, j'ai un pote qui m'a fait « Ah, mais t'es belle ce soir, mais t'es plus féministe !» J'étais trop vénère, genre « Mais what ? Mais c'est quoi en fait ton truc ?» Et je suis sûre que lui, il se souvient même pas de m'avoir dit ça, de m'avoir... Alors que moi, genre, ça doit faire 3 ans et je m'en souviens trop. Et c'est vraiment le truc où j'étais là en mode, ah ouais, en fait, je suis complètement toujours féminine. Enfin, c'est en mode, ouais, voilà.
Ouais, et puis là, ça, en étant hétéro, enfin, confrontée aux hommes tout le temps, genre, c'est trop dur, quoi. Enfin, genre, je fais que t'embrouiller tout le temps, quoi. C'est pas si simple. Mais c'est sûr que, enfin, hors du rapport amoureux, bah déjà c'est compliqué, ça peut être compliqué avec tes potes, c'est compliqué dans la rue, mais alors en plus quand t'es confronté à ça dans le rapport amoureux, tu dois sans arrêt mettre au point des trucs parce que bah, c'est genre les gars sont trop à l'écoute ou quoi. Mmh.
Oups. Alors petit conseil, éteins ton téléphone. Ils seront captés par l'enregistreur.
Bon.
Alors, moi, je vais raconter un moment, un truc qui m'a saoulé.
On va en campagne et on va à une terrasse de café avec une copine. Et en fait, il n'y avait pas de chaise. Du coup, je demande une chaise à un type qui était assis là. Je dis oui, est-ce que je peux prendre la chaise ou m'installer, je sais plus trop.
Et on va bloquer un rond-point en discutant avec les gens, en disant, bah voilà, vous en pensez quoi de ces élections, de ce qui est en train de se passer. Et à un moment, il y a une nana qui était super énervée, qui voulait absolument passer. Et donc elle le dit, quoi, elle dit, moi je veux passer, laissez-moi passer, elle est en bagnole. Et il y a un mec qui bloquait le rond-point que je connaissais pas avec nous, et qui dit à la nana, bah ok si tu nous montes tes seins.
Et il me dit, oh oui, j'ai rien contre les jolies femmes. Et du coup, je me suis assise et sans le regarder, et j'ai dit « et les femmes intelligentes ?»
Donc hyper trash et tout, tu sais, donc je dis rien toute seule. Je regarde juste une copine, j'avais vu qu'elle connaissait un peu ce gars. Je lui fais des yeux en mode « faut dire un truc ». Et elle lui dit Par contre, là, t'es entourée de féministes, donc va falloir faire attention à ce que tu dis, tu vois.
Et en fait, toute la terrasse de café s'immisce. Enfin, comme on parlait fort, c'est une petite terrasse.
Et ensuite, il y a un mec qui allait passer en voiture, toujours. Un mec seul dans sa caisse. Et il se retrouve bloqué. Et du coup, moi, je viens vers la voiture pour parler avec lui. Et le même mec qu'au début, là, il dit au gars de la voiture « Ah bah, tu vois, t'as bien fait d'attendre, hein, parce qu'elle est jolie, la nana qui vient de voir, hein, t'as bien fait d'attendre, hein, parce que ça valait le coup de voir ça. » Après coup, je me dis « Bon, je vais aller voir ce type-là, parce que faut que je lui dise quelque chose, quoi. » Donc j'y vais en mode sympa, en mode « Je vais pas l'attaquer, tout ça, et je lui dis... Mais tu sais, pour moi, c'est compliqué de faire une action comme ça, avec les réflexions que tu fais, qui me mettent mal à l'aise. Et il me dit, t'es frigide en fait. Non, je suis pas frigide. Du coup, là, je commence. Ça m'a énervée.
Et en fait, ça a été un gros moment assez difficile parce que toute la terrasse s'est mise à dire que j'étais, le discours un peu classique, que si j'étais aussi fermée, c'est qu'il y avait un truc chez moi qui clochait, que j'avais des blessures. Et de dire que si j'étais si fermée, c'est qu'il y avait déjà de dire non, c'est qu'il y avait un problème. Ce que je disais, moi, c'est que ça me dérangeait énormément d'être, en tout cas, tel que je le sentais, réduite à ça, là, d'être jolie ou d'avoir le droit à quelque chose parce que sous prétexte que j'étais charmante ou quoi, que je le prends pas du tout comme un compliment. Mm-hmm. Et du coup, à ce moment-là, j'avais trop envie de pleurer sur la terrasse parce que je me sentais seule et que je savais quand même profondément que ça sortait pas que de ma frustration ou de mon mal-être, cette réflexion-là, que c'était pas que pour moi, en fait. C'est ça, c'est que c'était pas à titre personnel. Moi, quand je réagis comme ça, je le fais aussi pour tout un tas de personnes, en fait.
Et donc là, deuxième réflexion typique, ah, mais t'as pas d'humour, en fait. Donc, ça m'énerve encore plus. Et je lui dis, c'est pas une question d'humour, et j'essaye de retourner le truc en disant, mais parce que toi, les blagues racistes, ça te fait marrer. Et donc, il est un peu bloqué, puis il dit, oui, bah ça dépend, mais tu sais, l'humour, ça sert à détourner, nanana, justement, et tout ça. Et je dis, bah écoute, ça dépend dans quel contexte. Mais en fait, dans le contexte où on est, les blagues que tu fais, elles sont hyper courantes, et elles sont pas drôles, parce que en vrai, moi, en tant que meuf, il y a des trucs que je vis que tu vis pas et tout, et ça me fait pas marrer ce que tu racontes. Et du coup, il s'adoucit, mais il me répond « Oui, d'accord, mais en tout cas, c'est pas en t'énervant comme ça que t'as de la crédibilité. Voilà, si tu parles énervé comme ça, ça te rend pas du tout crédible. » Du coup, il a fini de m'énerver, je lui ai dit... Et du coup, j'ai fini par lui répondre, enfin, je me suis dit « Ça sert à rien. » J'ai dit « Bah écoute, tu sais, on va s'arrêter là. Tu vas fermer ta gueule, je vais partir. Parce qu'en fait, tu vas pas en plus me dire comment il faut que je parle et comment il faut que je fasse alors que toi, tu vis pas ce que je vis, quoi. » Et à un moment, il y a sa meuf, en fait, qui vient me voir, qui était pas loin, et qui vient me dire « Oui, je suis désolée pour machin, là, son mec. » Donc, je dis « C'est pas grave et tout, c'est comme ça. » Elle lui dit « Non, mais en tout cas, c'est cool que tu lui aies dit et tout, parce qu'il fait ça tout le temps, et du coup, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui lui dise et tout. » Donc, j'étais contente quand même. Je me suis dit « Bon, ça sert pas à rien si elle se dit que c'est cool. » Et bon, après, elle me dit quand même « Mais il est gentil et tout, c'est pas le problème. » Et donc, lui, il vient me dire au revoir, parce qu'ils étaient en train de partir. Et il me dit « Je suis désolée que tu l'aies mal pris. » Voilà. C'est la fin de l'histoire. Et là, j'ai dit « Oui, ça va. Pars, ça sert à rien. » C'est même pas « Je suis désolée de ce que j'ai fait. » Non, « Je suis désolée que toi, tu l'aies mal pris. » Je sais pas, la prochaine fois, j'essaierai de le prendre bien.
Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir des arguments dans ces moments-là. Il me manque un peu de billes.
Moi, je sais, enfin, parce que moi aussi, c'est le genre de truc sur lesquels je peux réagir. Si on va juste uniquement me référer à ma beauté. Et moi, je trouve ça. Moi, c'est quelque chose que je dirais pas, par exemple, à quelqu'un, à un garçon qui vient s'asseoir à côté. Je dirais pas, mais bien sûr, la chaise est libre pour un beau garçon. Enfin, c'est un truc. Parce qu'en disant ça, en fait, je l'aurais dû uniquement à sa beauté. Et qu'en plus, je le connais pas. Donc, voilà. Et qu'en fait, il est pas là pour être beau. Il est là, quoi, c'est tout. Mais on n'est pas là pour être esthétique, en fait. un truc comme ça aussi.
Ah mais c'est trop bien ça d'inverser, parce que c'est justement dans le bouquin là que tu m'as prêté, King Kong Theory de Virginie Despentes, elle dit que depuis un moment dans sa vie elle s'amuse à tout inverser.
Qu'est-ce qui se passerait si c'était un homme qui oui. recevait ça,
ouais. Et du coup elle change les textes, ouais. et tout, et en fait c'est hyper parlant, c'est très simple comme exercice mais ça parle à mort. Ah ouais, trop bien. C'est un argument en soi en fait de, ouais. d'inverser, de dire bah en fait imagine. Après il y en a qui sont de mauvaise foi et qui disent oh bah ça me ferait plaisir d'entendre un...
Mais bien sûr, en fait évidemment que ça leur ferait plaisir parce que ça arriverait qu'une fois.
Bah oui c'est ça.
Mais si toute la journée, chaque fois qu'ils faisaient un truc dans la rue, qu'ils allaient juste sortir pour acheter du pain, il y avait constamment des groupes de meufs relous qui leur disaient ah t'es mignon, hé jeune homme t'as pas un 06. Si c'était ça leur vie depuis leur naissance, ouais. et ben en fait ils trouveraient ça relou aussi quoi. Ouais. Mais que là comme ça reste exceptionnel, bah évidemment tu prends un compliment, c'est un compliment quoi, c'est agréable.
Ouais, il me reprochait de pas savoir faire le tri en fait.
Oui bah
oui bah fais le tri au milieu des ordures.
c'est ça en fait, on a autre chose à foutre quoi, que de faire ouais.
Tu veux que je dise, pourquoi on rétablirait pas le goudron et les plumes quoi, comme à l'époque là, un gars là comme ça là, toc il te sort le truc, tu sors de la bagnole, un gros seau de goudron là avec des plumes bien blanches qui collent là, là c'est un truc bien dégueulasse à nettoyer tout ça, un truc qui va bien le coller à la peau pendant des mois et des mois, et après il aura un cancer, voilà, total quoi. Non là, franchement fuck quoi,
c'est bon, voilà,
c'était l'énervement du moment.
Ah, c'était 5 minutes par personne. Génial, ça va, on en a 20 minutes
et
on
allez. Est il y a la chorale qui va commencer, ah ouais, et moi bon, je fais partie de la chorale.
Bon,
allez,
alors j'y vais.
Alors, on est... C'est trop bien cette petite discute. Allez, bisous.
Allez, bisous.
Brazera, ça tue.
Ça tue quoi?
Bah, le patriarcat.
Nous on est une chorale féministe qui existe à Toulouse là, depuis à peu près presque un an. Et on chante des chansons qui ne concernent pas toujours ou pas toutes, mais c'est des chansons qui racontent des histoires ou des luttes qui nous parlent, qu'on a envie de... enfin, desquelles on a envie d'être solidaire, les transmettre, c'est pour ça qu'on les chante. Et si vous voulez, il y a des paroles là, je vais en prendre. Ah oui, on s'appelle, on a un nom. On s'appelle les chats qui râlent et on a un sous-titre. C'est Shine Bright avec les chorales.
Pourquoi caméra sans répit, m'épies-tu du haut de ton poteau? Pourquoi me fliques-tu? Y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a ras le cul. Que tu y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a ras le cul.
C'est une chorale en mixité choisie, meuf green trans. Bon, actuellement, on peut dire qu'on est plutôt des meufs cis. J'ai l'impression qu'on peut dire ça. C'est ouvert aux personnes qui veulent venir. Alors, pourquoi est-ce que la chorale est née? En fait, c'est parti de quelque chose de très informel au départ. On était plusieurs à faire partie de la Canaille du Midi, qui est une chorale libertaire toulousaine. Et du coup, un jour, il y a des personnes qui nous ont demandé de chanter, mais en mixité meuf, du coup, pendant des journées au Mirail. C'était des journées sur des journées féministes organisées par des personnes du Mirail, et du coup elles nous ont dit voilà, on aimerait que vous chantiez, mais par contre ce serait en mixité. Et donc on s'est concerté entre nous et puis on a dit bah oui banco, on y va, super. Et comme on avait des chants féministes dans le répertoire de la Canaille et d'autres que d'autres chorales voilà avaient amené dans d'autres événements, bah on s'est dit bah on se fait un petit répertoire de quelques chansons et on leur fait ça quoi. Et en fait c'était super chouette. Et on a été réclamé à nouveau, puisqu'il y avait des copines dans le public, et du coup, à qui ça a donné des idées pour qui faisaient partie d'autres collectifs. Et du coup, est-ce que vous pouvez venir refaire la même chose que vous avez fait la dernière fois au Mirail, venir chanter en soutien pour notre truc et tout. Et du coup, de fil en aiguille, on a régulièrement, pendant un petit temps, on se voyait entre meufs pour chanter nos chants féministes et tout ça.
On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu se regardant voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui n'ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Je pense en termes... déjà, rien que des fois sur l'envie de chanter des chants féministes, et que ce soit des mecs cis qui chantent ces chants-là, c'est questionnant sur des choses. Enfin voilà, après ça n'empêche pas qu'ils puissent le faire, mais ça nous faisait plaisir déjà un peu plus d'être entre nous pour chanter des chants sur le consentement ou... voilà. Et après, c'est aussi en termes d'organisation. Je sais pas, on est construite aussi d'une certaine manière qui fait qu'on est un peu plus à l'écoute, un peu plus bienveillante, on va faire attention à qui prend la parole, il y a quand même des choses qui dans nos constructions font que au bout d'un moment, à force de se rencontrer qu'entre meufs, on s'est rendu compte qu'on était vachement plus sereine sur plein de choses.
C'est une chorale autogérée. On a défini plus ou moins ce que c'était pour nous l'autogestion. Et donc là, on se voit les jeudis. Et on décide les choses entre nous. On se transmet. Celle qui amène des chansons propose des voix, travaille les voix en amont et les transmet après à toutes les personnes qui sont là.
C'est des paroles de femmes. Par exemple, la Vézina. C'est pas une chanson féministe, c'est juste une histoire d'une meuf qui va demander à sa voisine des conseils sur comment guérir sa foufoune. On peut parler de sororité ou d'entraide, de self-help même, on peut aller jusque-là, mais bon, c'est pas des grosses revendications féministes, mais bon, en tout cas, on essaye de varier le répertoire pour que ça soit toujours quelque chose qui nous concerne, plus ou moins, et puis sinon, si c'est, que ce soit des chants de personnes qui luttent pour telle ou telle chose et que ça nous importe de le transmettre et de le chanter et puis de comprendre les paroles et de savoir d'apprendre des choses sur les luttes des autres en fait, et pas rester qu'entre eux, entre soi.
Ouais. Mais j'ai l'impression par exemple sur la création d'espace en mixité choisie, enfin ça c'est quelque chose qui fait du bien, et on a des retours aussi de personnes qui viennent ça crée des espaces safe et qu'on a envie de reproduire, et du coup c'est porté par tel ou tel collectif, mais on se retrouve là-dessus.
Alors ça c'est pas que j'ai pas les paroles.
Il était une fois ou mille, un homme comme toi, un homme tranquille, qui dans un désir violent et soudain, voulut parvenir trop vite à ses fins. Avec la finesse qu'ont parfois les bêtes, face à la princesse, il se dit, suis-je bête? Entre haut et bas, souvent femme varie. Si elle se débat, c'est pour mieux dire oui. Mais quand c'est non, c'est non, quand c'est non, fais gaffe. Range ton bâton, ta gueule et dégage. Quand c'est non, c'est non, quand c'est non, mon vieux. Range ton pardon et passe aux aveux. Mais quand c'est non, c'est non, quand c'est non, fais gaffe. Range ton bâton, ta gueule et dégage. Quand c'est non, c'est non, quand c'est non, mon vieux. Range ton pardon et passe aux aveux. Mais Qui va faire le ménage, nous on fait la radio sauvage. Qui va faire le ménage, nous on fait la radio sauvage. Qui va faire le ménage, nous on fait la radio sauvage.
Déjà en train de dire que c'est quoi les moments où on est en lutte. Est-ce que ce serait pas un petit peu à chaque fois que tu te réveilles le matin, même des fois tu luttes pour t'endormir et tu luttes pour pas te réveiller la nuit, et une fois que tu te réveilles, eh ben c'est la lutte.
Ouais, c'est ça. Ben si je reviens à notre idée de choisir un moment de lutte, je crois que ouais, effectivement la lutte elle est moi aussi pour moi un peu tout le temps. Quand on disait dans la rue, tout ça. Et c'est un choix de vie, j'ai l'impression. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un choix de... au quotidien, quoi. De toujours lutter et de pas me mettre des œillères. Quand je vois des trucs, j'ai toujours besoin de... Enfin, j'ai l'impression que c'est important de pas fermer les yeux sur ça. Et là, notamment au boulot, où en fait, ça faisait des mois qu'on pouvait observer des comportements d'un collègue qui était vraiment pas cool. Et en fait, je crois qu'un peu tous, on s'est dit non, mais il n'y a que moi qui l'observe, donc ça doit peut-être le faire. Et en fait, finalement, en parlant petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à... On était beaucoup, en fait, on était tous à voir que ce mec avait des comportements pas adaptés. Jusqu'à ce que ça a été loin, quoi. Jusqu'à ce qu'une élève nous parle d'une agression qu'elle avait subie de sa part. Et si je dois parler d'un moment de vue, je crois que celui-là, en ce moment, en tout cas, il me prend pas mal de place parce que, ben, c'est quand on lutte, on doit faire des choix. Et là, j'ai choisi de le dénoncer. Et du coup, ça peut aller loin. Et des fois, ben, on se rend compte et en même temps, on doit faire aussi avec ce qui existe actuellement, avec la loi, avec tout ça. Et donc là, je vais être entendue par la brigade des mineurs. Et c'est pas facile parce que ben, du coup, je dois être avec des flics. Contre un mec, et en fait je me rends compte que c'est pas ce qui me convient, mais que j'ai pas le choix parce que c'est l'urgence et qu'on doit le mettre à l'écart. Mais je vois que c'est pas évident parce que je me rends compte aussi que c'est pas une solution de... Enfin, j'ai pas l'impression que pour moi ce soit une solution, par exemple, qu'il aille en tôle.
Un petit moment de légèreté, ça sent pas. Mais...
et même des fois j'ai l'impression que c'est pas des choix simples, quoi. Mais bon, et n'importe quelle lutte, en fait. Quand on se positionne, à partir du moment où on se positionne, ça veut dire que ben on fait un choix vraiment, et du coup il y a des conséquences.
Bah ouais, faire des choix justement comme par rapport à ce que tu disais, tu vois, choisir de s'impliquer vraiment dans des trucs difficiles, bah c'est pas anodin, et que je le fais pas forcément, et que je pense que peut-être pour l'instant j'en suis encore à une partie où j'ai envie que ça reste un truc intéressant et comment dire, d'une certaine manière agréable peut-être pour moi, quoi. Tu vois, et que je trouve ça vachement... Je me posais vachement de questions par rapport à tous les mineurs isolés qu'il y a aussi en ce moment. Et du coup, il y avait des trucs de, en effet, ce que ça implique d'accueillir quelqu'un chez toi et tout, tu vois, pendant sur du long terme. Enfin, ce qu'on a peut-être on a proposé un peu en urgence à la coloc, mais tu vois, c'est pas la même implication, quoi. Du coup, ça me posait vachement la question de jusqu'où moi je suis prête à aller, quelle... Voilà, comment est-ce que j'ai envie aussi que ma manière de lutter, elle évolue, tu vois. Et voilà, et du coup, je sais pas, ça me...
Bah, je pense des fois, t'as pas le choix, aussi, de te poser la question. Et que, ouais, du coup, c'est...
c'est, je sais pas, c'est tellement t'es renvoyé à, je sais pas, les trucs hyper injustes ou sur lesquels en fait tu te sens attaqué ou quoi, et du coup la lutte ça peut être un moyen de ouais de te rendre plus fort, de machin, et je pense je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir d'avoir pris cette voie-là à un moment donné, de me dire vas-y, j'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de voir les trucs, j'ai envie d'en faire quelque chose, mais j'avais le choix de le faire ou de pas le faire, alors que je pense que pour plein d'autres quotidiens, plein d'autres réalités, plein de personnes, en fait la violence, des injustices, des inégalités, tu te la prends tellement que je sais pas si la lutte c'est un moyen je pense que c'est un des moyens de prendre de la force quelque part et tout, et qu'il peut y avoir je pense d'autres moyens, mais je me dis moi dans ma vie j'ai eu je me sens pas, je pense que j'ai beaucoup de privilèges et que du coup j'ai aussi ce privilège là de choisir ou pas
Ouais. Mais c'est marrant parce que ça c'est un truc dont je me rends compte maintenant, cet aspect là que moi aussi j'ai beaucoup de privilèges et tout, et en même temps quand j'ai commencé, c'était les premières fois tu vois où je me disais bon bah je vais faire quelque chose de tout ce qui me, enfin moi je me sentais dans un truc de j'ai plus le choix quoi, que de si je vais pas survivre en fait à rien faire, tu vois, je me sentais vachement dans ce truc là intérieurement, quand bien même en effet j'avais un toit, je mangeais, enfin tu vois, j'étais toujours pleine de mes privilèges aussi de classe, de race, etc. Et c'est maintenant plutôt que tu vois, je me rends compte en effet de ces privilèges-là, que je me dis bon bah il y a peut-être une étape, tu vois, je peux aller plus loin. Je me dis là, maintenant j'ai pris de la force aussi, je prends de la force encore et je continuerai de le faire, tu vois. Mais où je me dis, je pense je peux faire plus que ce que je fais, tu vois. Mais du coup,
moi le fait de m'organiser avec des gens, ça me donne le mojo, tu vois, pour être dehors et pour me dire ouais, j'ai des espaces où je peux être tranquille avec des gens que je kiffe et avec qui on se donne un peu, tu vois, du réconfort, de la force, de la réflexion et tout. Et en même temps, c'est ce qui me permet aussi de lutter quand je suis toute seule dans la rue, ou des fois en fait, même si je réagis pas, je repense à des situations que des copines ont pu me partager ou que des trucs. Et du coup, en fait, c'est une espèce d'aller-retour permanent entre qu'est-ce que je vis comme lutte toute seule quand je suis dans la rue, quand je suis dans ma famille, quand je suis je sais pas où, et les espaces où on lutte, on va dire, je sais pas, de manière militante, où du coup c'est d'autres trucs qui se jouent et du coup l'un renforce l'autre, et après ça se fait petit à petit, enfin je sais pas, il y a plein de manières de lutter, je pense il y a des manières de lutter dont j'ai même pas idée en fait.
En fait le fait de savoir qu'il y a d'autres gens qui pensent comme toi, de partager aussi une analyse, tu vois, et de pas se sentir seul dans ton sentiment, ça change tout aussi quoi.
Ah bah c'est clair. Moi j'avais une espèce de métaphore bidon là, comme ça, enfin bidon non, mais je me disais à chaque fois en fait quand je suis confrontée à une situation qui me met mal, j'imagine en fait que j'ai un sac à dos avec toutes mes potes dedans, avec toutes leurs anecdotes, toutes leurs, tu sais, les moments chouettes, les moments durs, les trucs que tu surpasses, les émotions que ça te procure et tout. Et en fait, je suis là, des fois, c'est pas moi qui parle en fait, c'est mes potes dans mon sac à dos qui me soufflent à l'oreillette, genre, vas-y, dis-lui que tu veux pas ça et machin ou machin. Ouais. Et je me suis retrouvée dans des situations, mais genre, c'est pas moi qui parlais, c'est vraiment les potes dans mon sac à dos. Et j'étais là, mais c'est trop beau.
Ah,
et des fois, ça marche pas, mais des fois, ça marche. Et j'étais là, oh, c'est trop bien. Et après, je vais voir mes potes et je suis là, vous étiez dans mon sac à dos, c'était trop bien, et j'ai fait ça, alors que jamais j'aurais cru que j'aurais pu dire ça à quelqu'un, tu vois, genre un médecin, un gars qui a une blouse blanche, qui a la cinquantaine, et t'es là genre tu poses tes limites, et t'es là non, ça oui, ça non, et t'es là genre, et des fois ça marche pas, mais tu vois, je sais pas, il y a des petits trucs à chaque fois qui, et c'est, enfin ouais, moi c'est ça que je retiens, c'est genre le truc que t'as en toi, même si elles sont, même si les personnes sont plus là, tu vois, là.
Ouais. Trop beau ta métaphore.
Ouais. On peut aussi les mettre dans les bananes.
Dans les bananes, dans les sacs à main.
Celle qui n'a rien demandé, celle qui n'a pas quémandé, celle qui vient te démanger, celle qui t'a bien dérangé. J'aurais beau rapper la peine, résister à la haine, je serai jamais la reine. J'aurais beau tarter des milliers d'MC, les femmes ne seraient bonnes qu'à la WC.
Alors je raconte un moment où j'ai été en lutte. Je viens d'une grande famille avec plein de cousines, plein de cousins et un grand-père qui est une personnalité très toxique, assez controversé, quelqu'un de manipulateur. Et puis un jour, au fur et à mesure des années, les uns et les autres s'éloignent un peu de ce personnage-là. Et puis un jour, on apprend pendant un week-end où une de mes cousines était chez lui, où il regardait un film, mon grand-père s'est jeté sur ma cousine et l'a embrassée de force en enfonçant sa langue dans sa bouche jusqu'à ce qu'elle crie et qu'après il prétende que rien ne s'est passé. Et ça, c'est il y a plusieurs années. À peu près tout le monde est au courant, mais personne n'en parle. Les choses suivent leur cours. Les peu de fois où le sujet est abordé, le grand-père prétend que ma cousine est une menteuse, qu'il s'était endormi, qu'il a fait un rêve et qu'il a pris pour sa femme. Plein de choses pour essayer de la rendre moins crédible, en fait. Et puis un jour, il nous fait une très grande invitation à tous les cousins et il inclut aussi dans cette invitation et il est très mielleux et il promet que ça va être un super week-end, etc. Là, elle pète un câble, en fait. Dans le mail commun qui a été envoyé à tout le monde, elle répond en lui demandant comment il ose encore lui parler après ce qu'il lui a fait. Qu'elle est furieuse contre lui et qu'elle ne souhaite pas avoir de contact avec lui. Et on reçoit tous ce mail. Et moi et ma sœur, on s'est dit la même chose au même moment. C'est-à-dire quand ce mail a été reçu, on s'est dit mais c'est génial. Enfin, les langues vont se délier et enfin, les gens vont se positionner, etc. Et ce qui se passe après est assez horrible. C'est-à-dire qu'il renvoie un mail à tout le monde. Un mail qui est, parce que c'est quelqu'un qui est très très fort pour manipuler les mots, pour manipuler les émotions, etc. Où il la désingue complètement, où il explique à quel point c'est une menteuse, à quel point c'est une manipulatrice, etc. Et là, quand je lis ce truc-là, je me dis en fait non, les choses vont pas changer, il va continuer à tourner tout le monde et il est vraiment très fort pour ça, il a une façon de le faire vraiment. C'est une espèce de génie de la manipulation de l'esprit humain et après mon espèce de joie de me dire bon cette histoire elle va se finir positivement, là je lui dis bon non, les choses vont pas bouger et en même temps sans qu'on se consulte, ma sœur et moi en fait on répond, on envoie un mail très très simple où on dit juste je crois ma cousine, rien d'autre, vraiment rien d'autre, pas un point de plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a écrit ça toutes les deux. Ça a été le point de départ d'une déferlante de prise de position pour défendre ma cousine, pour ne pas laisser les choses rester dans les non-dits, les mensonges se propager, pour chaque fois qu'il répondait avec des choses fausses, hein, pour se défendre, d'autres personnes, les uns et les autres, répondaient en disant « c'est faux, j'étais là, j'ai entendu ça, ce que tu dis est faux, etc. » Ça s'est fini avec un PDF de 35 pages de mon grand-père accusant absolument toutes les personnes de la famille, balançant tous les dossiers qu'il pouvait balancer pour essayer de sauver la face. Ma cousine écrivant un dernier mail expliquant que pour la première fois de sa vie, elle a pleuré par rapport à cette histoire-là, mais de joie, de se sentir soutenue par sa famille. Ça faisait plus de 4 ans. Que cette histoire est arrivée et que même si les uns et les autres savaient que mon grand-père avait encore fait un truc bizarre et personne n'avait manifesté son soutien publiquement ou même en privé pour cette personne. Ça a été la fin en fait, grâce à cette série de mails, des non-dits et le moment où ma cousine a pu commencer un chemin de guérison. On s'est rendu compte à quel point c'était un outil très très simple. On n'avait pas fait quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose d'incroyablement courageux, de compliqué à mettre en place, etc. On a juste fait une seule chose, c'était de publiquement dire « je soutiens cette personne et je la crois ». Et c'est ce qui a fait la différence en fait dans la façon dont elle s'est sentie traitée, dans la façon dont elle a pu se reconstruire, dans la façon où ça a été géré. Parfois, il n'y a pas grand-chose de plus à faire que juste ne pas se taire et laisser les non-dits continuer, laisser les mensonges se propager et juste dire publiquement « je soutiens cette personne et je la crois ».
Et moi, je vois les moments où je me sens en répit. En fait, c'est les moments où j'essaye de choisir un peu les gens qui m'entourent, que ce soit chez moi, où j'ai réussi après pas mal d'années, hein,
à être dans un endroit où c'est pas la lutte non plus. Où en fait les personnes avec qui j'habite, ça se passe bien et j'ai pas à me justifier de mes pratiques, j'ai pas à... Voilà, expliquer pourquoi je sors avec des meufs, j'ai pas. J'en sais rien, tu vois, sur des trucs de qui te constitue ou qui te machin. Mais du coup, enfin, je sais pas, comme. Ouais. J'allais dire, il y a des espaces aussi non mixtes ou quels qu'ils soient que t'arrives à choisir et du coup, tu te dis, bon, bah là, je lutte, enfin, je choisis cette forme-là pour lutter, mais je lutte pas dans la forme. Enfin, je sais pas. Tu vois, c'est espèces de
ton quotidien, enfin ce moment-là, du coup, il est pas fastidieux pour toi, il te demande pas un effort.
Ouais.
Pour moi, c'est la création de confrontation, d'adaptation à un lieu, à des normes qui est...
une bulle, genre une bulle de repos un peu pour faire des trucs
Mais c'est vrai que c'est marrant en fait, c'est un peu le paradoxe, je trouve pour moi aussi dans mon militantisme féministe, il y a un truc qui vient vachement de ma colère aussi, de ce à quoi je peux être confrontée, comme tu disais, dans ma famille aussi, dans les d'autres espaces mixtes de pro ou dans la rue, les machins. Et du coup, le milieu féministe, pour autant, ça reste un des endroits où je suis le plus à l'aise et où je suis le plus détendue et où je prends le plus de plaisir quotidien, de rencontrer des gens. Du coup, c'est un peu... Enfin, c'est en tout cas intéressant, quoi.
Celle qui t'a bien dérangé. J'aurais beau rappeler la peine, résister à la haine, je serai jamais la reine. Chienne. J'aurais beau tarter des milliers d'MC, les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Chienne. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête. Chienne. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôter la tête. Fou le seum, celle qui débarque au milieu de milliers.
Brasé radio féministe,
ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le collectif dont vous faites partie?
Bah alors du coup on habite au centre social autogéré de Toulouse, de la Créa on peut dire. Donc campagne de réquisition, d'entraide et de gestion. Nous ce qui s'est passé c'est qu'on a avec l'aide de on n'a pas tout fait toute seule, mais on a réquisitionné un bâtiment qui était vide depuis 5 ans pour en faire un centre social. La Créa elle ouvre des centres sociaux à Toulouse depuis plusieurs années, donc là nous on a un peu repris ce truc là parce que voilà, il y avait besoin de renouveau. Et ce qui se passe c'est qu'on essaye, même si ça marche pas toujours, d'en faire le lieu le plus collectif possible. Il y a plein d'activités qui ont lieu dedans, donc nous on est habitantes mais on prend part aussi à la gestion collective du lieu. Dedans il y a, comment dire, oh là là, c'est compliqué hein, tu viens à la suite.
Et pour rebondir peut-être sur un peu l'historique, en fait l'histoire c'est que nous du coup un crew de copines à la base, on avait la volonté de... Certaines étaient déjà squatteuses, d'autres pas. On avait volonté d'ouvrir un squat avec un espace qui puisse être saisi par un maximum de monde, avec une sorte d'implantation de quartier. Et parallèlement il y avait la Créa avec qui au final on n'avait pas de lien particulier à ce moment-là, qui avait la volonté d'ouvrir un centre social, mais qui était un peu en rade de militants pour y vivre. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait, par une rencontre mutuelle, et ça nous a permis à la fois d'y apporter, on va dire, notre... une certaine peut-être vision politique avec aussi qui on est, nos réseaux, nanana, nanana, et en même temps aussi des outils que nous on n'avait pas, une expérience qu'on n'avait pas, etc., etc. Et puis aussi je dirais qu'il y a plus ou moins quand même deux collectifs. On fait partie du collectif Habitante, enfin, et Habitant, et du coup c'est quelque chose quand même qui est indépendant du centre social autogéré. Le collectif Habitante, donc il est composé de 7 jeunes filles, femmes, meufs, étudiantes ou travailleuses,
militantes,
ou sans activité, militantes, et de deux familles, une de 3 enfants avec un père et une mère, et une femme avec ses 2 ados, on va dire. Et donc au niveau du centre social, on essaie de s'organiser beaucoup plus collectivement que seulement à nous sept, même si de fait c'est sûr qu'il y a quand même un noyau dur et que le fait d'habiter sur le lieu fait qu'on a une place particulière et assez investie à différentes échelles.
But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I love harder. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, sold a million.
Que ce soit que des meufs, un peu qui soient à l'origine du collectif d'habitantes, justement.
Bah, j'ai l'impression que, dites-moi si, arrêtez-moi si je me trompe, que nous on s'est retrouvés autour d'un projet d'une ouverture de squat et qu'en fait par extension on n'était que des meufs hein, et que du coup à un moment, et j'ai l'impression qu'au début c'était pas forcément, enfin c'est un truc qu'on avait questionné de est-ce qu'on voulait un cadre non mixte ou pas, puis finalement on avait dit que pas forcément vu qu'on voulait quand même vivre avec des familles et qu'on voulait pas forcément poser ce truc là, mais que plus les mois ils sont passés, plus il y a quand même un truc qui s'est joué dans le terme de la non mixité de l'espace de vie, qui est une quasi non mixité, notamment au niveau des espaces communs, que ce soit la cuisine, le salon, où on est souvent en fait que entre meufs dans ces espaces là. Et même avec les darons avec qui on vit, etc. Et qu'on s'est rendu compte que c'était un espace finalement non mixte, par extension qui était assez chouette. Et qu'à un moment on avait un peu discuté de ça pour une réouverture aussi, que c'est un truc qu'on aimait bien, le fait qu'il y ait une, pas forcément une non-mixité en tout cas entière, mais une grande majorité. En tout, on est combien à vivre à la maison?
On est 15. Non, on est 15.
15, il y a 3 mecs.
Plus deux enfants garçons.
Et deux enfants garçons.
Ouais. Voilà. Donc la question féministe, elle prend pas mal de place dans votre collectif.
Bah oui, quand même. Non, mais je sais pas.
Moi, je dirais juste que c'était pas la base de la revendication, ouais, la non-mixité, mais que de fait, ça a marqué l'identité du lieu de manière assez forte.
Et puis le fait qu'on habite qu'entre meufs et que malgré tout, on fasse partie, comme tu disais, un peu plus particulièrement du CSA. Bah, ça implique que ouais, nous on a envie que celui soit féministe en fait, et que genre il y a des trucs que je pense on laisse pas passer comme on pourrait laisser passer d'autres personnes, qu'on veut imposer un truc de que ça rentre vraiment en compte quoi, dans les activités, dans la gestion de choses, enfin, tout ça quoi.
Ouais, c'est ça, c'est que j'ai l'impression, comme tu disais, que c'était pas une revendication de base d'en faire un lieu, d'ouvrir un squat féministe par exemple, mais que de par qui on est et de par le fait que la majorité des meufs du CSA elles sont beaucoup impliquées dans des luttes féministes, bah, ça pose le truc. Mais après c'est pas le cas non plus de toutes, on n'est pas non plus toutes dans les mêmes exactement dans les mêmes réseaux militants, dans les mêmes collectifs. Il y a aussi d'autres luttes qui sont portées par d'autres meufs plus que d'autres quoi, qui sont pas fortes, enfin c'est pas que c'est pas des luttes féministes, mais c'est que c'est d'autres types de luttes quoi. Mm-hmm.
Juste peut-être ici passe quoi ou c'est ça, enfin peut-être l'objectif au départ de.
Mais là, ce qui est justement l'endroit, ce qui est vachement bien, c'est ce côté appropriation. Enfin, et du coup les activités, on y a une part qui peut être relativement limitée en réalité. Puisque bon, par exemple tous les jours il y a une permanence de soins qui est tenue par deux personnes qui font de la médecine chinoise et de l'acupuncture. Donc voilà, c'est de 14h à 18h toute la semaine. C'est une activité qui est gratuite. Il y a des cours de français deux fois par semaine, un cours d'arabe, un cours d'espagnol. Il y a tous les vendredis, il y a le vendredi de la solidarité qui est un truc justement qu'on tire vraiment de cette histoire de la créa, parce que ça existe depuis un moment. Donc le principe c'est qu'il y a un collectif ou la créa qui organise une soirée avec un concert ou une activité quelconque, et il y a une famille qui fait à manger et la nourriture est vendue à prix libre. Donc la vente de la nourriture revient à la famille et le bar lui il est à prix fixe et il revient au collectif qui organise ou à la créa. Il y a eu un moment où il y avait des cours de hip-hop pour les enfants, bon c'est un peu épisodique. Il y a aussi de manière générale des activités à destination des enfants qui pareil sont ponctuelles mais qui peuvent se déployer là-bas. Je sais pas ce qu'il y a d'autre qui...
Bah, pas mal de réus aussi de collectifs.
Il y a énormément de collectifs qui se réunissent là.
Et du coup l'idée c'est qu'à partir du moment où ça respecte des bases politiques relativement large, toute personne qui souhaite et gratuite, parce qu'il y a la gratuité quand même, et ben n'importe quel collectif ou personne peut prendre part au lieu et toute initiative est bienvenue quoi.
Et après, je sais pas si ça rentre trop dans la question, mais j'ai l'impression que, de par le fait que, comme on l'a dit, nous, on soit quand même des meufs féministes et qu'on vive là-bas, en termes de squat aussi, ça a posé un truc où, par exemple, pas forcément au début, mais à un moment, on a quand même vachement essayé de faire appel à des personnes qui soient pas des mecs cis-hétéros pour tout ce qui était travaux. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un truc hyper galère par rapport à ça, que c'était pas forcément des savoirs qui étaient méga... en fait partagé par tous et par toutes, et que du coup c'est un truc sur lequel on a essayé quand même de pas mal travailler, qu'on a, je pense, appris pas mal de trucs par rapport à ça, et qu'on a en fait des rencontres sur des trucs très techniques de qu'est-ce que c'est être en squat avec des galères d'élec et de plomberie. On s'est retrouvé aussi à face à un peu nos réalités, je pense. On s'est rendu, moi je me suis, bon, je pense que je le savais, mais je me suis vraiment rendu compte que par exemple je comprenais rien à la base à un circuit d'eau dans une maison, que j'y connaissais rien, qu'un circuit électrique par exemple, pour moi ça voulait rien dire. Et que des fois quand le mec en face il te dit bah oui mais c'est comme pour un circuit de machin, et en fait j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est le circuit de truc, tu vois. Enfin qu'il y a un truc aussi d'éducation genrée qui a un peu été, je pense, mis en ouais, lumière, et que c'était assez chouette aussi, je pense, en termes de squat, d'être des squatteuses et de réfléchir à ce truc-là, parce que c'est vraiment des savoirs qui sont hyper riches, quoi. Et que c'est, quand ça passe par des meufs, en fait, c'est complètement différent que quand ça passe par des mecs.
Et pareil au niveau des ouvertures de squat, enfin rien que sur les trucs techniques d'ouverture.
Ouais, on a essayé au maximum si on pouvait se faire aider par des meufs pour tous les trucs, des travaux du bâtiment, mais pour l'ouverture aussi. Ouais.
Et puis juste de fait, c'est un collectif composé en grande partie de meufs. Et aussi notamment parce que pas mal de mecs se sont fait virer, enfin certains à cause de leur comportement problématique ou des troubles de violence.
Est-ce que vous pensez à titre personnel ou au nom du collectif de la dynamique féministe à Toulouse?
Wow. Elle est riche.
Putain, je sais pas.
Moi je trouve que Toulouse, enfin moi je pense que j'ai commencé à m'intéresser et à rentrer dans des trucs féministes quand je suis arrivée à Toulouse, donc ça fait pas très très longtemps. Et du coup j'ai pas forcément beaucoup de points de comparaison sur d'autres villes. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. En soi, il y a quand même souvent des... beaucoup de trucs par contre qui sont de l'ordre un peu de la boum, quoi. Mais il y a quand même souvent des week-ends, des fêtes, des soirées, des afters. Mais qu'après... Non, il y a des trucs qui... Je trouve que c'est une ville qui bouge un peu là-dessus, quoi. Après, j'ai pas vraiment de... de comparaison.
Bah, je trouve aussi... Ouais, non, moi je sais pas non plus, mais je trouve aussi que typiquement, pour rebondir sur ce que tu disais, qu'il y a des mecs qui se sont fait virer avec des histoires de violence et tout, je trouve qu'il y a eu un truc vraiment quand même assez ouf qui s'est créé à chaque fois de solidarité, à chaque fois de groupes de meufs qui se sont créés pour... Enfin, qui se sont formés à ce moment-là pour gérer la situation, pour prendre... prendre soin de la personne aussi qui a vécu peut-être des trucs pas cool, mais réagir à chaque fois en fonction de la situation. Enfin, je sais pas, il y a des trucs de solidarité collective, je trouve, qui étaient vraiment cool, quoi. Et du coup, là, bon, bah, après, je sais pas ce que ça dit de la dynamique féministe à Toulouse, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça assez ouf. Puis je trouve qu'on en a traversé quand même pas mal et que c'était à chaque fois assez bien géré, je sais pas. Enfin,
il y a du réseau qui se fait, je pense qu'au bout d'un moment c'est un petit milieu aussi malgré tout, et tu finis par connaître tout le monde, et enfin en tout cas reconnaître tout le monde plus ou moins, et les liens se font comme ça, et je pense aussi la solidarité elle se fait aussi vachement comme ça. Après c'est un certain milieu qui est dans un certain milieu politique aussi, moi je sais pas trop ce que c'est la dynamique du féminisme institutionnel à Toulouse par exemple, enfin tu vois, ou de je sais pas, il y a aux autres féminismes, je sais pas ce qu'elles font, j'en sais rien, tu vois, mais du coup... Je pense qu'il y a quand même un réseau assez solide et quand même qui arrive à faire bouger. Enfin, genre la marche de nuit qui a eu lieu, on a réussi à faire bouger 10 000 personnes, non je sais pas, 400 meufs, enfin meufs, etc. Personnes, j'ai pas la liste. Mais enfin 100 mecs 6 quoi, et du coup il y a quand même des choses qui se passent.
Merci.
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 without your perfect vision. You thought I couldn't last without you, but I'm lasting. You thought that I would die without you, but I'm living. Merci. C'était Brazera.
Merci.
À bientôt.
Bisous.
Salut. Vous pourrez nous retrouver le 22 janvier pour une nouvelle émission. D'ailleurs, on vous invite toutes à nous rejoindre au studio pour écouter un live et la prochaine émission.
Salut.
Ouais, bravo.
Big up.
Brazera, ça tue.
Ça tue quoi?
Bah, le patriarcat.
Ah, ouais, j'avais oublié.